الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فهذا اليوم هو 22 من شهر جمادى الثاني عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في الدرس 53 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله. Nous sommes le 11 avril 2015 et aujourd'hui, inshallah, nous allons entrer dans le 53e cours de l'étude de ce livre de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes en train de parler de ce qui est propre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que nul ne partage avec lui. Parmi ces choses, celles qui ont attrait à la foi et dont nous avons parlé durant le dernier cours. Ici, Ibn Kathir rahimahullah va parler de tout ce qui était propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, du moins selon certains savants, dans le domaine de la purification. Car comme nous l'avons dit, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a classifié ces choses-là en leur donnant le même ordre qu'on a donné aux ouvrages de jurisprudence islamique. Les premiers chapitres étant ceux relatif à la purification, Kitab al-Tahara. Après, le chapitre concernant ce qui est en relation avec l'Iman et dont nous avons parlé. Qala rahimahullah ta'ala, Kitab al-Tahara. Famin dhalik, annahu kana qad umira bil wudu'i li kulli salah, falamma shaqa dhalika alayhi umira bis siwak. ومستنده ما رواه عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة أخرجه أبو داود قال فالظاهر من هذا أنه أوجب عليه السواك وهو الصحيح عند الأصحاب قاله أبو زكريا ومال إلى قوته الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي به قرآن أو وحي وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي رواه البيهقي قال البخاري هذا حديث حسن. ابن كثير رحمه الله تعالى entame le chapitre sur la purification. Il dit, ce qui, selon le sens, selon la traduction, contrairement au reste des musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut l'ordre d'accomplir ses ablutions pour chaque prière. Puis, lorsque cette obligation devint difficile à supporter, son Seigneur lui ordonna d'utiliser le siwak avant chaque prière. Ainsi, Abdullah ibn Hanzala Ibn Abi Amir rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, reçut l'ordre d'effectuer les ablutions pour chaque prière, qu'il soit en état de purification ou non. Puis, lorsqu'il lui devint pénible de remplir cette obligation, il reçut l'ordre d'utiliser le siwak avant chaque prière, rapporté par l'imam Abu Daoud. Ce hadith semble indiquer que l'utilisation du siwak fut une obligation pour lui, ce qui est le cas selon les tenants de notre école. Et quand Ibn Kathir rahimahullah parle des tenants de son école, l'école en question, c'est l'école de l'imam Shafi'i rahimahullah. Comme l'affirme Abu Zakariya, l'imam al-Nawawi, le Cheikh Abu Amr ibn Salah considère cette opinion comme très fondée. À l'appui de cet avis, ce hadith rapporté par l'imam Ahmad, selon Ibn Abbas, selon qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'utilisation du siwak me fut ordonnée à tel point que je crus que descendrait sur moi à ce sujet un verset coranique ou une autre forme de révélation. » Par ailleurs, selon Umm Salama, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jibril n'a cessé de me recommander le siwak au point que j'ai eu peur pour mes dents. » De ce hadith que rapporte Al-Bayhaqi, Al-Bukhari affirme qu'il est authentique. On voit qu'ici Ibn Kathir rahimahullah ta'ala commence par citer la question des ablutions et du siwak. Il nous dit ici que certains parmi les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu l'ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala d'accomplir ses ablutions pour chaque prière de manière obligatoire, qu'il ait les ablutions ou non. Puis quand ceci lui devient pénible et contraignant, Allah Azza wa Jal lui a ordonné d'utiliser le siwak au lieu de faire les ablutions pour chaque prière. Et le hadith est rapporté par l'imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Ibn Kathir a dit qu'il apparaît de ce hadith que l'utilisation du siwak est une obligation pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est l'avis de l'école de l'imam Shafi'i rahimahullah. Et parmi cette école, les grands savants, l'imam al-Nawawi et l'imam Abu Amr ibn Salah rahimahullah, ils se sont basés sur un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « On m'a ordonné, selon sens rapproché, c'est le hadith qui est dans le livre, il dit qu'on lui a donné l'ordre d'accomplir ou d'utiliser le siwak à un point où il crut qu'Allah azza wa jal allait lui faire révéler des versets ou lui donner une révélation concernant l'importance du siwak. » Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait le siwak. D'ailleurs, il l'a utilisé jusqu'à la fin de ses jours, avant de quitter ce bas monde. Et le hadith est authentique. Et on l'a d'ailleurs écouté dans le chapitre sur la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il était à l'agonie, ou du moins il était proche de la mort, et que Aïcha radiallahu anha a remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été attiré par le siwak que tenait Abdurrahman, son frère, qui est le fils d'Abu Bakr, radiallahu anhu. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il désire qu'elle prenne le siwak pour lui donner, pour qu'il l'utilise. Et le prophète a fait signe avec sa tête qu'il veut le siwak. Aïcha radiallahu ta'ala anha a pris ce siwak, lui a donné. Il était trop dur. Puis elle l'a repris, elle l'a mordu pour qu'il devienne plus mou et l'a rendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a utilisé. Car dans un hadith, il dit As-siwak mataharatun lil-fam mardatun lil-rab azza wa jal. L'utilisation du siwak est une purification pour la bouche et une satisfaction pour le Seigneur azza wa jal. Et donc, selon l'école de l'imam Shafi'i, il est une obligation au prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors de sa communauté. Et par rapport à sa communauté, le hadith que rapporte l'imam Bukhari, le prophète alayhi salatu wa sallam dit selon Abu Huraira, Laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli salah. N'eût-ce été la peur que j'ai ou que j'ai eu de contraindre ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak à chaque prière. C'est-à-dire que par peur que ceci devienne trop contraignant et dur pour eux, car le siwak Il peut se perdre, il peut s'oublier, tout simplement l'un d'entre nous peut négliger. Donc, s'il l'avait légiféré, si Allah Azzajal l'avait légiféré de manière obligatoire, on serait dans le péché. Mais grâce à Allah Azzawajal, il nous a légiféré le siwak de manière à être récompensé, surérogatoire. Celui qui le fait est récompensé, celui qui ne le fait pas n'a pas de péché, mais il perd des hasanat qu'il aurait pu gagner très facilement. Wallahu musta'an. Ensuite, il cite un deuxième hadith. Et Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad, hafidhahullah, a dit que ce hadith n'est pas authentique. Dans celui-ci, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Jibril n'a cessé de lui ordonner l'utilisation du siwak jusqu'à ce qu'il craigne pour ses dents. Les dents en question, ce sont al-adras, ce sont les grosses dents, celles qui sont derrière, comme les molaires et autres. Ce hadith est discutable du point de vue de l'authenticité. Si ce n'est que l'imam al-Albani, rahimahullah, a cité un hadith qui est très proche dans ses termes de celui-ci, dans As-Silsilat al-Sahiha, la chaîne ou bien la série de hadiths authentiques. Et l'imam al-Albani, rahimahullah, a écrit ce qu'on appelle la série de hadiths authentiques et la série de hadiths faibles. Ce sont des livres en plusieurs tomes, une quinzaine pour chacun, dans lesquels il a classifié des hadiths dont il a étudié l'authenticité et vérifié. Et pareil pour les hadiths qui sont faibles. Dans celle où il parle des hadiths authentiques, il cite le hadith suivant. قال صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني. Il dit, on m'a ordonné l'utilisation du siwak jusqu'à avoir peur pour mes dents. C'est-à-dire qu'il l'a tellement utilisé, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a eu peur pour ses dents. Il a eu peur d'abîmer ses dents, sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala Abdullah ibn Wahb, حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمر مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يدردني رواه البيهقي وفيه انقطاع بين المطلب وعائشة. En outre, Abdullah ibn Wahb rapporte, d'après Yahya ibn Abdullah ibn Salim, d'après Amr, l'esclave affranchi d'Al-Muttalib, d'après Al-Muttalib ibn Abdullah, d'après Aisha, radiyallahu anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai tellement utilisé le siwak que j'ai craint d'en perdre mes dents. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bayhaqi, ibn Kathir dit, mais sa chaîne de transmission est interrompue entre Al-Muttalib et Aisha. C'est-à-dire, si vous lisez la chaîne de narrateur, vous voyez ici que c'est Al-Muttalib qui aurait rapporté selon Aisha. Si ce n'est qu'il y a en réalité une coupure entre Al-Muttalib et Aisha. Il y a une personne, un narrateur, dont le nom n'est pas cité. Et c'est une raison pour rendre faible le hadith. Il dit cependant, un autre hadith vient contredire cet avis. Naam. Wa yushkilu ala hadha ma rawahu al-imam Ahmad an Wathilah ibn al-Asqa' qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam umirtu bis-siwaki hatta khashitu an yuktaba alay. Wa li hadha qala ba'd ashabina innahu lam yakun wajiba alayhi bal mustahabba. Cependant, un autre hadith vient contredire cet avis. De quel avis est-ce que l'on parle? De l'obligation d'utiliser le siwak. En effet, l'imam Ahmed rapporte, d'après le compagnon Wathilah ibn al-Asqa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai reçu l'ordre d'utiliser le siwak au point que j'ai redouté de me le voir imposer. C'est-à-dire, il l'a tellement utilisé, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a eu peur qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui rende obligatoire. Car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des actes surérogatoires, des actions pieuses, il arrivait qu'ils deviennent obligatoires de les faire, du fait qu'il les faisait continuellement. C'est la raison pour laquelle il a cessé de prier Tarawih. Et les hadiths, ils sont connus. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant le mois de Ramadan, a rassemblé quelques-uns de ses compagnons et prié en groupe la nuit après Salat al-Isha. Puis par peur qu'Allah Azza wa Jal ne rende obligatoires ses prières, il a cessé de les faire, sallallahu alayhi wa sallam. Car quand lui avait l'habitude de faire quelque chose, Allah Azza wa Jal lui rendait obligatoire. Aussi, certains des tenants de notre école affirment que le siwak ne fut pas une obligation pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ne lui fut que recommandé. Donc, des savants même de l'école de l'imam Shafi'i, rahimahullah, ont contredit l'avis de ceux qui ont dit que c'était une obligation pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prenant pour preuve ce hadith, et dans lequel nous voyons que ce n'est pas une obligation, puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu peur qu'il ne lui devienne justement obligatoire. Donc, ce n'est pas une particularité. Wallahu ta'ala a'lam, car les autres de la communauté l'utilisent. Et il leur est aussi recommandé de l'utiliser. وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ بِالنَّوْمِ. Avant d'entrer dans le deuxième point, il existe un hadith dans lequel on apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait ses cinq prières avec une seule et même ablution. Je pense que vous l'avez entendu, ce hadith-là. Ceux qui suivent les cours de jurisprudence, le chapitre sur la purification. Le Cheikh Abdelrazak a dit, si ce hadith est authentique, Abdelrazak al-Abbad, si ce hadith est authentique, justement, il contredit cette question ici, par rapport aux ablutions, de dire que c'était une obligation pour lui d'accomplir ses ablutions à chaque prière. Wallahu a'lam. ومن ذلك أنه كان لا ينتقض وضوءه بالنوم ودليله حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. Autre particularité du prophète صلى الله عليه وسلم par rapport aux autres musulmans, lorsqu'il s'endormait, il ne perdait pas ses ablutions pour autant. Contrairement à nous, lorsque nous dormons, nous perdons nos ablutions si le sommeil est profond. Pour preuve, le hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas, que l'on trouve dans les deux recueils authentiques, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'endormit au point de souffler en respirant, c'est-à-dire ce qui ressemble un peu au ronflement. Puis lorsque se présenta à lui le muadzin, celui qui appelle à la prière, il sortit et dirigea la prière en commun sans renouveler ses ablutions. Donc ici nous voyons, et ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète a dormi, sallallahu alayhi wa sallam, dans un sommeil assez profond. Puis quand on lui a informé de l'entrée du temps de la prière, il s'est levé et il est parti diriger la prière. Et pourtant, il avait dormi et n'avait pas accompli ses ablutions. Wa sababuhu ma dhukira fi hadith Aisha radhiyallahu anha annaha sa'alathu fa qalat ya rasul Allah tanamu qabla an tutir fa qala ya Aisha innahu tanamu aynai wa la yanamu qalbi. L'explication se trouve dans ce hadith où l'on apprend que Aïcha radiallahu anha interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. « Ô messager d'Allah, tu dors avant de prier al-witr ?» Il répondit « Ô Aïcha, si mes yeux se ferment, mon cœur lui ne s'endort pas. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette particularité, c'est que quand il dormait, ses yeux étaient fermés, mais son cœur n'était pas endormi, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était donc pas inattentif. Donc ceci est une question qui est claire. Une autre question, واختلفوا هل كان ينتقض وضوءه بمس النساء على وجهين. Perdait-il ses ablutions lorsqu'il touchait une femme? Deux avis ont été émis à ce sujet. والأشهر منهما الانتقاض. وكأن ما أخذ من ذهب إلى عدم الانتقاض حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فوقعت يدها عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Le plus répandu étant qu'ils les perdaient. C'est-à-dire que chez eux, chez l'école de l'imam Shafi'i, et l'imam Ibn Kathir rahimahullah est issu de cette école, mais il n'est pas fanatique. C'est un savant du hadith aussi. Il semble que ceux qui affirment qu'ils ne perdaient pas ces ablutions dans ce cas se fondent sur ce hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Aïcha, qui relate qu'elle se mit à chercher dans l'obscurité de la nuit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée. Sa main se posa alors sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en prosternation disait « Oh Allah, je cherche refuge auprès de ta satisfaction contre ton courroux, auprès de ton pardon contre ton châtiment et auprès de toi contre toi-même. Je ne peux te louer comme tu le mérites. » Tu es comme tu t'es loué toi-même. Subhanahu wa ta'ala. Certains ont dit que quand le prophète touche une de ses épouses, ou pas, touche une femme, alayhi salatu wassalam, et ne touche que ses épouses, il perd ses ablutions. Et ceci est l'avis de certains de l'imam, de l'école de l'imam Shafi'i, qui a été contredit par la grande majorité des savants. Comme l'a cité le Cheikh Abdelrazzaq, cet avis a été contredit par la grande majorité des savants. Deuxièmement, il cite que ceux qui adoptent l'avis contraire, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas ses ablutions, c'est ce hadith et c'est effectivement une preuve qui prouve l'avis contraire, qui est que le prophète ne perd pas ses ablutions quand il touche une épouse, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté par Muslim. On y trouve cette information. Aïcha, une nuit, radiallahu anha, a perdu son mari. Elle le cherchait. Il n'était plus à ses côtés. Elle s'est mise à le chercher. Quand avec ses mains, elle a touché ses deux pieds, sallallahu alayhi wa sallam, et elle a donc trouvé en prosternation en train d'invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala. Ceci est la preuve qu'il n'a pas perdu ses ablutions, puisque si toucher une femme pour lui faisait perdre ses ablutions, sa prière deviendrait invalide et il aurait donc l'obligation de réitérer cette prière, ce qui ne fut pas le cas. Et d'autres hadiths aussi le prouvent, comme un où le prophète prie chez son épouse Aïcha radiallahu anha dans un endroit tellement exigu et serré que lorsqu'il arrive à se prosterner, il est amené à pousser les pieds de Aïcha radiallahu ta'ala anha pour pouvoir poser sa tête au sol et son front, sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces hadiths montrent que ce n'est pas une annulation des ablutions pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que de toucher ses épouses. Aussi, on apprend dans ce hadith qu'il fait partie de la sunna durant le sujoud, la prosternation, de coller ses pieds, puisque Aïcha radiallahu anha a pu toucher les deux plats du pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une main, et une main de femme ce n'est pas grand, même une main d'homme, donc ses pieds étaient collés, c'est une sunna. On apprend aussi de ce hadith, ça c'est des parenthèses pour vous montrer un peu combien est grande la science des savants et tout ce qu'ils peuvent tirer d'un hadith. On apprend aussi de ce hadith dans l'aqidah, dans la croyance, que des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala sont meilleurs que d'autres. La preuve en est, parmi les attributs d'Allah azza wa jal, al-rida, la satisfaction, al-ghadab, la colère. Ici, le prophète alayhi salatu wasalam dit : je cherche refuge auprès de ta satisfaction contre ta colère. Bien sûr, tous les attributs d'Allah sont parfaits, subhanahu wa ta'ala. Mais, comme a dit Cheikh Abdurrazzaq, Al-Abbad Hafidhahullah, dans son commentaire de Al-Kalim al-Tayyib d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans l'explication de cette invocation, les attributs d'Allah sont meilleurs que d'autres. On prend aussi de ce hadith la réponse aux exagérateurs du soufisme qui ont pour croyance que quand on parle d'une lumière qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une lumière véritable que l'on pouvait voir, si bien qu'il, quand il marchait, il illuminait les routes sombres et ténébreuses. Ceci est faux. La preuve, Aïcha radiallahu anha a besoin de le chercher partout et a besoin de le toucher pour se rendre compte qu'il est en prosternation alors qu'il est juste à côté d'elle. Et si c'était une lumière comme le décrivent les gens du soufisme, elle n'aurait pas eu besoin de faire tout ceci. Alhamdulillah. Et en réalité, comme l'a dit Cheikh Abdurrazzaq, cette question, est-ce que toucher la femme annule les ablutions ou non, n'est même pas une particularité, car ceci concerne l'ensemble des musulmans. Et l'avis de la majorité, c'est que toucher une épouse ou toucher une femme n'annule pas les ablutions. وجاء من غير وجه عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. Également, par ailleurs, il est rapporté à travers plus d'une chaîne de narrateurs, d'après Aïcha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam embrassait avant d'aller prier. Il lui arrivait d'embrasser ses épouses sallallahu alayhi wa sallam avant d'aller prier sans renouveler ses ablutions. Donc là, c'est plus encore que le simple toucher de la main à la main ou le corps. Il embrassait sallallahu alayhi wa sallam. وكأن هذا القائل ذهب إلى ترخيص ذلك به صلى الله عليه وسلم ولكن الخصوم لا يقنعون منه بذلك بل يقولون إن الأصل في ذلك عدم الترخيص إلا بدليل. Il semble que ceux qui affirment qu'il ne perdait pas ses ablutions lorsqu'il touchait une femme considèrent que ceci était propre au messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceux qui le contredisent n'en sont pas convaincus, avançant l'argument suivant. La règle de base est qu'aucune règle religieuse n'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf si un texte vient le stipuler, ce qui n'est pas le cas justement pour cette question. Aucun texte vient stipuler que cette question est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le champ reste vaste et tout le monde est concerné. Et la majorité des savants disent que toucher une femme n'annule pas les ablutions. Mas'ala. Il va traiter une question. هل كان يحتلم على وجهين صحح النووي المنع ويشكل عليه حديث عائشة في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم والأظهر في هذا التفصيل وهو أن يقال إن أريد بالاحتلام فيض من البدن فلا مانع من هذا وإن أريد به ما يحصل من تخبط الشيطان فهو معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء بل قد أغمي عليه في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها في الصحيح وفيه أنه اغتسل من الإغماء غير مرة والحديث مشهور. Question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était-il sujet à des pollutions nocturnes? La pollution nocturne, c'est quand l'homme se lève au cours de la nuit ou bien se lève le matin et s'aperçoit que a coulé son liquide, le sperme a coulé et donc il est en état de pollution majeure et doit accomplir le bain al-ghusl. Al-Nawawi répondit par la négative. Al-Nawawi rahimahullah a pris l'avis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas ces pollutions nocturnes. Pourquoi est-ce que Ibn Kathir cite cette question dans ce chapitre des particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car si on dit et on prend l'avis que le prophète n'avait pas les pollutions nocturnes, nous sommes dans le chapitre de la purification, de tout ce qui est pureté, purification, c'est une particularité. Si on suit cet avis, on dira que c'est une particularité, car tous les hommes sont sujets à ce fait, alors que le prophète, lui, ne serait pas sujet à ces pollutions nocturnes. An-Nawawi répondit par la négative. Néanmoins, son opinion est contredite par le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques d'après Aïcha, qui rapporte que l'aube arrivait parfois alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état d'impureté majeure qui n'était pas due à des pollutions nocturnes. Donc, il effectuait alors les grandes ablutions, puis jeûnait cette journée, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce hadith a été pris par ceux qui contredisent cet avis, qui disent si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peut avoir des pollutions nocturnes. Pourquoi ? Il dit, car dans ce hadith, on dit qu'il arrivait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, il lui arrivait d'être en état d'impureté majeure qui n'était pas due à des pollutions nocturnes. Donc si on dit qu'il lui arrivait de temps en temps, quelquefois, d'être en impureté majeure qui n'était pas due à des pollutions nocturnes, c'est-à-dire que d'autres fois c'était dû à des pollutions nocturnes. Donc c'est pour ça qu'ils prennent ce hadith pour contredire l'avis. Il effectuait alors les grandes ablutions, puis jeûnait cette journée. Néanmoins, il semble qu'il y ait deux cas de figure. Si par pollution nocturne, on entend une simple éjaculation, alors rien ne l'empêche. Si on entend simplement le fait que le liquide s'évacue de l'homme par cet orifice, alors rien ne l'empêche. C'est quelque chose de naturel et d'humain. Et Allah a créé l'homme comme cela. En revanche, si on entend par là l'action de Shaytan, alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en était préservé. Le prophète était préservé d'être touché par un Shaytan pendant son sommeil. Aussi, il est impensable qu'il soit pris de folie, mais il a pu perdre conscience. Donc ici, ils disent, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être en pollution majeure, dans le sens où son liquide s'est évacué de son orifice, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est naturel, et il ne peut pas être touché par Shaytan qui va provoquer cet écoulement. De la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas touché par la folie. La folie, c'est ce qui vient, dans la plupart des cas, du shaitan, al-junoun. Il vient et il fait perdre la raison de la personne ou lui fait atteindre la folie. Le prophète n'était pas touché par ces choses-là. Par contre, mais il a pu perdre conscience. La simple perte de conscience, c'est quelque chose de naturel. Pareil, l'éjaculation naturelle, c'est possible pour lui. Devenir fou, avoir la folie, ce n'est pas possible pour lui. Être touché par un démon pendant la nuit n'est pas possible pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, un hadith que l'on trouve dans les recueils authentiques et rapporté par Aïcha indique qu'il a effectué ses ablutions après s'être évanoui, et ce à plusieurs reprises, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est évanoui, alayhi salatu wa sallam. Donc, le résumé de la question, c'est que le prophète peut être et peut se lever en état d'impureté majeure. Alayhi salatu wassalam. Ce n'est donc pas une particularité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa min dhalika ma dhakarahu Abu al-Abbas ibn al-Qas annahu lam yakun yahrumu alayhi al-mukthu fi al-masjid wa huwa junub. Wa ihtajju bima rawahu al-Tirmidhi min hadithi سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد سمع البخاري مني هذا الحديث واستغربه. قلت عطية ضعيف الحديث. قال البيهقي غير محتج به، وكذا الراوي عنه ضعيف. إذن لا دليل على هذه الخصوصية. Autre particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux autres musulmans. Et en réalité, ce n'est pas une particularité car il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve authentique concernant ce qui va être cité. Donc ce que vous allez entendre comme argument sont tous des arguments faibles, comme l'a cité les savants du hadith. Il ne lui était pas interdit de demeurer dans la mosquée alors qu'il était en état d'impureté majeure. Donc certains disent que le prophète avait le droit de rester dans la mosquée, sallallahu alayhi wa sallam, même s'il était en état d'impureté majeure, en djanaba. À l'appui de cet avis, ce hadith rapporté par At-Tirmidhi, il cite la chaîne de transmission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô Ali, sache qu'il n'est permis à nul autre que toi et moi de rester dans cette mosquée en état d'impureté majeure. » Selon l'imam At-Tirmidhi, le hadith est « Hassan Gharib ». Ce sont des terminologies du hadith, vous n'en avez pas besoin, puisque rapporté uniquement à travers cette chaîne de narrateurs. Il ajouta « Al-Bukhari m'a d'ailleurs entendu rapporter ce hadith. » Précision, donc il manque quelque chose. Al-Bukhari m'a entendu rapporter ce hadith qu'il a trouvé étrange. Précision que Atiyah n'est pas digne de foi. Atiyah, c'est un des rapporteurs du hadith. Dans ses narrations, si bien qu'Al-Bayhaqi dit de lui qu'on ne peut tenir compte de ses narrations. Donc ce hadith, il n'a pas de preuve. Et donc ce sujet, en vérité, n'est pas une particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد حمله ضرار بن سرد على الاستطراق. الاستطراق هو المرور بالمسجد حال الجنابة. كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي بن منذر الطريقي عنه. De même, celui qui rapporte ce hadith d'après Atiyah n'est pas non plus digne de foi. Dirar ibn Surad affirme que ce hadith fait référence au fait de traverser la mosquée pour se rendre à un endroit, comme le rapporte l'imam At-Tirmidhi d'après son cheikh Ali ibn Munzir al-Turayqi. Donc certains, premièrement, ce hadith n'est pas authentique. Deuxièmement, s'il était authentique, certains disent qu'en réalité, il parle du fait de marcher dans la mosquée, de traverser la mosquée en état d'impureté. Et ceci, en réalité, n'est pas interdit même pour autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si on disait que le hadith était authentique, ça ne serait même pas une particularité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un verset du Coran où Allah, azza wa jal, interdit certaines choses à celui qui est en état d'impureté majeure, comme rester dans la mosquée, sauf celui qui est amené à traverser la mosquée. Il a un besoin de traverser la mosquée. Mais cette interprétation pose problème, car traverser la mosquée pour se rendre dans un lieu est permis à chacun. Pourquoi donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam en aurait fait un privilège propre à lui et à Ali, sauf si le hadith se réfère spécifiquement à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, que lui seul et Ali seraient autorisés à traverser. Et même dans ce point-là, le Cheikh Abdel Razzaq a dit « Hada la dalil alayh ». Il n'y a pas de preuve pour ça. Il n'y a aucune preuve qui affirme ce qui est cité ici. C'est la raison pour laquelle il a précisé « Ô Ali, sache qu'il n'est permis à nul autre que toi et moi de rester dans cette mosquée en état d'impureté majeure. » Déjà, le hadith est faible. Ensuite, s'il n'était pas faible, il parlerait de traverser la mosquée. Ce n'est pas une particularité du prophète, alayhi salatu wassalam. Ou bien, il parlerait de la mosquée du prophète à Médine. Et ceci, il n'y a aucune preuve. Donc en vérité, cette particularité n'en est pas une. Mais Allah en est mieux informé que quiconque. À ce sujet, toujours... وقال محدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فقال ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين ألا قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا رواه ابن ماجة والبيهقي وهذا لفظه قال البخاري محدوج عن جسرة فيه نظر الحديث ضعيف نعم Il dit à ce sujet toujours Mahdouj al-Zuhali rapporte d'après Jasra, la fille de Dajjaja, d'après Ummu Salama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra dans la cour de la mosquée de Médine et dit « Sachez qu'il n'est permis à nulle personne en état d'impureté majeure et à nulle femme ayant ses règles de rester dans cette mosquée en dehors du messager d'Allah, de Ali, de Fatima, de Hassan et de Hussein. » Et Allah subhanahu wa ta'ala est témoin que quand j'ai lu ce hadith, je me suis dit dans ma tête, ça sent les chiites. Ça sent le chiisme dans ce hadith. Et alhamdoulilah, tout de suite après, le Cheikh Abdelrazzaq a cité la parole d'Ibn al-Qayyim que je vais vous citer. Il dit « Je vous ai cité les noms, soi-disant le prophète l'aura dit, je vous ai cité les noms afin que vous ne vous égariez pas. » Rapporté par Ibn Majah et al-Bayhaqi, dont c'est ici la version. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit وَهَذَا الْإِسْتِثْنَاءٌ بَاطِلٌ Et cette exception qui est faite, soi-disant le prophète alayhi salam avec Ali, Fatima, al-Hassan, al-Hussein, tous ces gens qui sont des nobles compagnons et qui sont adorés en dehors d'Allah par les chiites justement, qui ne cessent d'inventer des textes les uns après les autres pour essayer de prouver au monde entier que Ali radiallahu anhu est meilleur que tous les autres, ce qui est faux, même si c'est un des meilleurs compagnons, mais chacun à son degré, ils inventent des textes. Parmi les textes, ils ont inventé celui-ci. Il dit, c'est un hadith mensonger, inventé, forgé sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, min ziyadati ba'di roulati shi'a. C'est un ajout qui vient des exagérateurs chiites. Walhamdulillah, ala aqidati ahli sunnah. Au sujet des narrations de Mahdouj, d'après Jasra, Al-Bukhari affirme leur authenticité n'est pas établie. Voyez. Je vais vous résumer ceci, Inch'Allah ta'ala. Donc, vous gardez à la fin, tout simplement, que ce n'est pas une spécificité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Également, il y a deux hadiths, n'est-ce pas, que nous avons lus. Le premier, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit à Ali, toi et moi. Le deuxième, toi, moi, Fatima et tes deux enfants. Donc, ça serait une contradiction. Puisqu'on ne dirait plus que c'est une particularité au prophète, alayhi salatu wassalam. Puisque dans un autre hadith, il y a des autres noms. De toute façon, les deux hadiths, ils sont faibles, en réalité. Et un des savants a dit une parole très sage. Il dit que, en plus de la faiblesse de ce hadith dans ses narrateurs, il y a une faiblesse du point de vue du texte en lui-même. Car dans celui-ci, on nous dit que le prophète peut rester dans la mosquée en état d'impureté. Alors qu'il n'y a aucune particularité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux gens de sa communauté dans la vénération des emblèmes d'Allah, dans le fait de respecter, d'immensifier les emblèmes d'Allah, les signes d'Allah, les choses légiférées qui ont de la valeur chez Allah, telles que les mosquées. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra rester dans la mosquée en état d'impureté? Walhamdulillah. ومن ذلك طهارة شعره صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجته أمر أبا طلحة يفرقه على الناس وهذا إنما يكون من الخصائص إذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه المنفصل عنه في حال الحياة وهو أحد الوجهين. قال الشيخ عبد الرزاق ليست خصوصية كذلك لأن الشعر طاهر. Autre particularité qui n'en est pas une en réalité par rapport aux autres musulmans, la pureté de ses cheveux. Ainsi, il est rapporté de source sûre dans le recueil de Muslim d'après le récit d'Anas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se fit raser la tête pendant son pèlerinage. Il demanda à son compagnon Abu Talha de distribuer ses cheveux aux musulmans. Ceci ne peut d'ailleurs être considéré comme une particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam que si l'on considère les cheveux des autres hommes coupés ou rasés de leur vivant comme impurs. Ce qui n'est pas le cas. Les cheveux qui sont coupés. Quand tu te coupes les cheveux ou te les rases, les cheveux qui tombent ne sont pas impurs. Donc ce n'est pas une particularité. Néanmoins, les savants de l'islam sont partagés à ce sujet. Certains les considérant comme impurs, d'autres comme purs. Cheikh Abd al-Razzaq a dit ce n'est pas une particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam car les cheveux restent purs. Les cheveux coupés qui tombent. Par ailleurs, Ibn Adi rapporte, donc il va citer certains textes, rapporte d'après Ibn Abi Fudayk, d'après Buray, عن بريه ابن عمر ابن سفينة عن أبيه عن جده قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير أو قال الناس والدواب. شك ابن أبي فديك قال فتغيبت به فشربته قال ثم سألني فأخبرته أني شربته فضحك فإنه حديث ضعيف لحال بريه هذا واسمه إبراهيم فإنه ضعيف جدا. Donc il cite un hadith, je viens directement au hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait une hijama, une saignée. Il fait sortir, il fait évacuer de son corps le sang dont il veut se débarrasser sallallahu alayhi wa sallam, puis lui dit: prends ce sang et enterre-le afin qu'il ne soit pas mangé par les bêtes et les oiseaux. Puis il est dit dans ce hadith que le compagnon Safin a poursuivi son récit: je me suis alors caché pour boire le sang. Puis interrogé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui répondis que j'avais bu le sang, ce qui le fit sourire. Ce hadith, il est faux. Ce hadith est faible. Et c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui venait de son corps était béni, comme ses cheveux, sa salive, sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, il lui arrivait de cracher et ses compagnons ramassaient ou le rattrapaient avant même que celui-ci ne tombe au sol. Et ceci est une particularité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là, on peut le dire. Et personne ne partage cette particularité avec lui. Et celui qui cherche la baraka dans les cheveux, la salive et ces choses-là, les éléments appartenant à quelqu'un autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tombe dans le shirk, dans l'association Allah, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Or ce hadith est sans fondement compte tenu de la présence dans la chaîne de narrateurs de Buray dont le nom Ibrahim, qui n'est pas digne de foi. Al-Bayhaqi rapporte à travers une autre chaîne de narrateurs d'après Abu al-Hassan, donc il cite toute la chaîne de transmission, qui relate avoir entendu Amir, le fils d'Abdullah ibn al-Zubayr, rapporter ce récit qu'il tient de son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se fit faire une saignée puis me donna son sang en me disant: va le cacher afin que les bêtes féroces, les carnassiers ou les hommes ne le trouvent. Il poursuivit: je me mis alors à l'écart et bu le sang. Puis je me rendis auprès de lui. Qu'as-tu fait? Me demanda-t-il. J'ai agi selon tes ordres, répondis-je. Il dit: tu l'as bu plutôt. Lorsque j'avoue, il dit: que feras-tu donc subir à ma nation? Pareil, ce hadith est faible. Néanmoins, la chaîne du narrateur de ce hadith est également faible, compte tenu de la présence de Ubayd ibn al-Qasim, al-Asdi al-Kufi, dont les narrations ne sont pas retenues par les savants, et qui fut même traité de menteur par Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in, c'est un des grands savants du hadith, et il s'y connaissait dans les narrateurs de hadith. Rahimahullah, un grand savant de la sunna. Toutefois, Al-Bayhaqi affirme que le récit relatant que Abdullah ibn Zubayr but le sang est rapporté à travers une chaîne de narrateurs d'après Asma, la fille d'Abu Bakr. Et donc, bien entendu, ces hadiths, ces récits ne sont pas authentiques. Attendez. Aussi, certains des tenants de notre école affirment que tout ce qui était évacué de son organisme, comme son sang donc, mais aussi ses urines, ses excréments, étaient purs. Mais cet avis est très étonnant. Effectivement, ce n'est pas le cas. Ces derniers se fondent sur ce que rapporte Al-Bayhaqi d'après Abu Nasr ibn Qatada, d'après Abu al-Hassan, Muhammad ibn Ahmad ibn Hamid al-Attar, d'après Ahmad ibn al-Hassan ibn Abd al-Jabbar, d'après Yahya ibn Ma'in, d'après Al-Hajjaj ibn Jurayj, d'après Al-Hukayma, la fille d'Umayma, d'après sa mère Umayma, qui relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'uriner dans un récipient en bois placé sous son lit. Un jour, il voulut prendre ce récipient, mais constata qu'il était vide. Il dit alors à une femme au service de Umm Habiba, appelée Baraka, qui était venue avec elle d'Abyssinie, « Où se trouve l'urine qui se trouvait dans ce récipient ?» Elle répondit, « Je l'ai bu, ô messager d'Allah. » Ce récit, il est faible aussi. Il n'est pas à prendre en compte. Mais on les récite quand même, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour être fidèle au livre qui est écrit. Ibn Kathir a écrit un livre, on lit son livre. Rahimahullah. Deuxièmement, pour que vous sachiez que c'est faible. Comme ça, si vous le lisez, vous lisez cette histoire dans un livre, vous saurez qu'elle ne doit pas être prise en compte. Ce hadith est rapporté en ces termes, mais sa chaîne de narrateur est inconnue. Attendez, ensuite il va prouver que c'est une histoire qui n'est pas authentique. Et ainsi s'achève le chapitre sur la purification. Kitab al-Salah, le chapitre de la prière. فمن ذلك الضحى والوتر لما رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي من حديث أبي جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى قال الشيخ عبد الرزاق هذا الحديث لا يثبت لا يثبت. Deux premières furent imposées en particulier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux prières. Personne ne me corrige, mashallah, à moins que vous n'écoutez pas. Deux prières furent imposées en particularité au prophète sallallahu, personne ne me corrige. Deux prières furent imposées en particulier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière de Al-Duha, de la matinée, et l'unité de prière qui clôture la prière de la nuit, Al-Witr. Ainsi, l'imam Ahmad, dans son Musnad, son livre de hadith, et l'imam Al-Bayhaqi rapportent d'après Abu Janab Al-Kalbi, Yahya ibn Abi Hayya, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Trois choses sont pour moi obligatoires et pour vous surérogatoires. » Premièrement, l'immolation. L'immolation, le jour, le sacrifice de la bête, le jour du Eid. La prière du witr et les deux rak'a priées dans la matinée. Et comme vous voyez, la notation en bas, que l'imam al-Albani, rahimahullah, a dit que ce hadith est faible et inventé. طيب. اعتمد جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا بوجوبها. قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح رحمه الله تعالى تردد الأصحاب في وجوب السواك عليه وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر عليه مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفة ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف رواية أبي جناب الكلب وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث وقد وثقه بعضهم والله أعلم. Ainsi l'imam Ahmed rapporte dans son Mousnad, donc c'est ce que nous venons de lire. Les tenants de notre école s'appuient d'ailleurs sur ce hadith pour affirmer le caractère obligatoire de ces trois actes d'adoration. Quels sont ces trois actes d'adoration? Le sacrifice du Eid, le Witr et les deux rak'ah du Duha, c'est-à-dire qu'elles sont obligatoires au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le hadith est faible. Ainsi le Cheikh Taqiyuddin Ibn Salah, qu'Allah lui fasse miséricorde, affirme: si les tenants de notre école hésitent à considérer le siwak comme obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a vu tantôt qu'ils ont divergé, en revanche ils affirment de manière catégorique que la prière du witr et celle du duha ainsi que le sacrifice le jour du Eid était une obligation pour lui. Ibn Kathir dit: pourtant ils se fondent dans leur affirmation sur le hadith dont nous avons dit qu'il était sans fondement. Aussi, s'ils avaient inversé leurs propos en affirmant de manière catégorique que le siwak était obligatoire dans le cas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et en hésitant à considérer al-witr, al-duha ainsi que le sacrifice comme obligatoire dans son cas, ils auraient été plus proches de la vérité. Ibn Kathir a dit: donc ces gens-là ont divergé sur l'obligation du siwak pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, ils sont catégoriques pour le sacrifice du Eid, la prière du Witr, la prière du Duha. Ibn Kathir a dit: il aurait été meilleur qu'ils hésitent sur ces trois choses et soient catégoriques sur le siwak, ça aurait été plus proche de la vérité. En effet, Abu Janab al-Kalbi, donc c'est un des rapporteurs du hadith qui est faible, n'est pas considéré comme digne de foi. Donc ça, vous voyez souvent cette phrase. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire que celui qui rapporte le hadith, comme il n'est pas digne de foi, il n'est pas intègre, on ne prend pas le hadith de lui, c'est pour ça que le hadith est jugé faible. Bien que certains savants du hadith soient d'un avis contraire, mais Allah en est mieux informé que quiconque. Précisons cependant que la majorité des savants ne considèrent pas Abu Janab al-Kalbi comme digne de foi. D'ailleurs, le Cheikh Abu Zakari al-Nawawi affirme que certains des tenants de notre école hésitent à considérer le witr, al-duha et le sacrifice comme une obligation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que certains les considèrent seulement comme recommandés pour lui alayhi salatu wa sallam. Cet avis est d'ailleurs le mieux fondé pour plusieurs raisons. La première est que ceux qui parlent d'obligation se fondent sur ce hadith qui, comme nous l'avons démontré, n'est pas authentique. Et s'il fut rapporté à travers une autre chienne de narrateur, ce dernier est encore moins digne de foi, un de ces narrateurs. La deuxième raison est qu'il est rapporté de sources sûres dans les deux recueils authentiques, d'après Ibn Umar, qu'il arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier al-witr sur sa monture en voyage. Or, ce hadith constitue un argument contre ceux qui considèrent le witr comme une obligation. Pourquoi ? Je vais vous résumer. Car si nous disons que la prière du witr est obligatoire, nous n'avons pas le droit de prier sur une monture. Nous n'avons pas le droit de prier sur une monture. Sur une monture, nous avons le droit de prier des prières surérogatoires. Par contre, les prières obligatoires sont interdites. Donc si on dit qu'il est obligatoire au prophète alayhi salatu wassalam de prier le witr, comment est-ce possible alors qu'il l'a déjà prié sur le dos de la chamelle sallallahu alayhi wa sallam, ce qui prouve que ce n'était pas une obligation. Donc c'est ce qui va être développé dans ce chapitre que je vous résume ici pour que ce soit plus simple. Ensuite, non. وأما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح أنه كان لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه. Il va citer que un hadith est rapporté chez l'imam Muslim dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait la prière du duha que quand il rentrait de voyage. فَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً فِي حَقِّهِ لَكَانَ أَمْرُ مُدَاوَمَتِهِ عَلَيْهَا أَشْهَرَ مِنْ أَنْ يُنْفَى وَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا رَكَعَتَيْنَ ويزيد ما يشاء الله فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاها وقد قدم من مغيبه جمعا بين الحديثين والله تعالى أعلم. S'agissant de la prière de Duha, il est rapporté d'après Aïcha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'accomplissait qu'à son retour de voyage. Or, si cette prière avait été obligatoire pour lui, il aurait été rapporté qu'il l'accomplissait assidûment et non qu'il l'effectuait parfois. Un autre hadith indique qu'il effectuait deux rak'ah pour cette prière, mais qu'il lui arrivait d'y ajouter d'autres rak'ah, ce qui ne contredit pas le premier hadith, mais indique seulement que c'est de cette manière qu'il accomplissait cette prière à son retour de voyage. Mais Allah en est mieux informé que quiconque. Mas'ala. Ce sera la dernière question sur laquelle on s'arrêtera, inshallah. Wa amma qiyamul layl wa huwa tahajjud وهو غير الوتر على الصحيح لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم كذلك إذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب إن التهجد كان واجبا عليه وتمسكوا بقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Il va passer à une autre question, rahimahullah ta'ala. Je vais vous le résumer, ne pas le lire directement. C'est la question de la prière de nuit. Cette question est la suivante. Est-ce que c'est une obligation de prier la nuit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non? Encore une fois, si on dit oui, on entre dans les particularités. C'est pour ça qu'il le cite comme question. Tout d'abord, avant d'entrer dans ce sujet, il affirme que ce qui est voulu par la prière de nuit, ce n'est pas la prière du witr, car effectivement, elle est effectuée la nuit. On ne parle pas de ça. Il dit, la majorité des tenants de l'école de l'imam Shafi'i ont adopté l'avis que c'est une obligation de prier la nuit. Ils se sont attachés à la parole d'Allah Azza wa Jal, selon le sens rapproché. Et pendant la nuit, là j'aurais dû garder la traduction dans mes mains. Donc le sens rapproché du verset, c'est qu'Allah Azza wa Jal demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir une partie de la nuit des prières surrogatoires afin qu'il soit ressuscité sur l'endroit digne de louange. C'est Shafa'a, l'intercession. قال عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى نافلة لك يعني بالنافلة أنها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. On rapporte qu'Ibn Abbas a dit dans le sens de نافلة لك, ce qui a été traduit par surrogatoire, veut dire autre chose. Il voudrait dire particulièrement pour toi. Donc ici, ils ont dit c'est une obligation qui est particulière au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umira bi qiyam al-layl fa kutiba alayh. Que au début c'était une action surrogatoire, mais elle est devenue obligatoire, wallahu alam. Puis il va citer selon Aisha radhiyallahu anha que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith est rapporté par Muslim, il est très connu, priait tellement longuement la nuit que ses talons se fendillaient sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des ouvertures qui se faisaient sur ses talons tellement il était fatigué sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha lui dit au messager d'Allah, agis-tu ainsi alors que tes péchés sont pardonnés, alors qu'on t'a pardonné? Il lui dit, oh Aïcha, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Mais Cheikh Abd al-Razzaq a dit, ce n'est pas une preuve claire que c'est une obligation pour lui de prier la nuit. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il va citer un hadith qui est faible. Donc, pour l'instant, on n'a pas de preuve que c'est une obligation. Dans ce hadith, il est dit, ثلاثة علي فريضة وهن لكم وهن سنة لكم. Il y a trois choses qui sont une obligation pour moi et une sunna pour vous. Al-witr, al-siwak, wa qiyam al-layl, la prière de la nuit. Ibn Kathir rahimahullah a dit que ce hadith est faible en raison de la présence d'un narrateur qui n'est pas à prendre en compte, dont la narration n'est pas à prendre en compte. وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة فإنه كان واجبا في ابتداء الإسلام على الأمة كافة. أبو حامد rapporte رحمه الله que l'imam الشافعي a cité que la prière de la nuit était au début une obligation, non pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement, mais aussi pour ses compagnons. Puis, cette obligation a été abrogée pour toute la communauté. Donc, ce n'est pas une particularité. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث منها حديث سعد بن هشام وعن عائشة وهو في الصحيح معروف وكذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله قلت والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم من حديث هشام بن سعد أنه دخل على عائشة أم المؤمنين فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا. فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة. Il cite ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim rahimahullah, dans lequel Aïcha fut interrogée. Informe-moi comment prier la nuit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, n'as-tu pas lu la sourate Al-Muzammil? Oui. Oui, répondis-je. Le compagnon dit, oui, répondis-je. Aïcha dit, Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le début de cette sourate la prière de la nuit avec ses compagnons qui ont prié au point où leurs talons se sont enflés, puis Allah a gardé auprès de lui au ciel azza wa jal la fin de cette sourate où il y a justement l'abrogation de cet ordre pendant un an, pendant 12 mois, et après lesquels il a fait descendre ces versets pour rendre la prière de nuit surérogatoire et non obligatoire. وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك قال فأعلمه أن قيام الليل نافلة لا فريضة والله سبحانه وتعالى أعلم. الإمام الشافعي رحمه الله a pris pour preuve que c'est justement un acte surérogatoire et non obligatoire, le verset « Nafilatan laka » qui a été traduit justement par l'avis de Shafi'i, qui est « surérogatoire pour toi ». Donc, on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier la nuit de façon surérogatoire. Cheikh Abd al-Razzaq a dit « Ala al-qawli bil-wujub ilaysa min al-khususiyyat » لأن القيام كان واجبا على الأمة ثم هذا الوجوب نسخ بعد سنة. Même si on disait que c'était une obligation, ce n'est pas une particularité puisque cette obligation incombait à la communauté et ensuite elle a été abrogée. Donc on ne dit pas que c'est une particularité. On s'arrête ici, inshallah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.